Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop de bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y les gars.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les t-shirts là, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. Oui, c'est la culture. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir.
Au chien bleu chez Zeto.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sors.
Il est 16h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Vous écoutez bien évidemment l'émission Sortez. Je suis comme toujours accompagné de Marie. Salut Marie.
Bonjour, salut.
Alors, ça va mieux?
Ouais, je te remercie, ça va, en forme.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ninon Barra de l'association Devenir.art afin de présenter la navette de l'art qui circulera le 7 juin 2025 de 9h30 à 18h. Au départ de la gare de Tours, il s'agit d'un parcours réunissant débutants ou aguerris pour une journée d'itinérance artistique à travers la région Centre-Val de Loire, entre musées, expositions, sites historiques. Bonjour à toi Nino.
Bonjour. Donc cet événement, on l'a dit, il est organisé par l'association Devenir Art. Est-ce qu'on peut présenter cet organisme et donc nous dire où est-ce que vous exercez et dans quel domaine?
Oui, ben merci beaucoup pour l'invitation. Oui, alors Devenir Art, effectivement, c'est une association, c'est le réseau régional des arts visuels. Donc c'est une association dont les bureaux se trouvent à Tours, mais qui rayonne sur toute la région, comme son nom l'indique, et qui a pour but de fédérer les professionnels des arts visuels. Donc c'est un peu, c'est volontairement large, mais ça comprend évidemment... majoritairement des artistes, mais aussi des enseignants en art visuel à différents niveaux, dans différents établissements scolaires, des salariés de structure, des indépendants, des critiques d'art, des commissaires d'exposition, etc. Tous les gens qui se reconnaissent du secteur peuvent adhérer à l'association. Et donc l'idée, c'est de proposer de la ressource professionnelle, un accompagnement, et aussi donner de la visibilité aux initiatives qui existent. Par le biais d'un agenda papier, comme j'ai déposé tout à l'heure en arrivant, qu'on édite tous les 4 mois, un agenda en ligne, et puis un annuaire des professionnels, et une grosse partie ressources professionnelles, avec beaucoup de choses, pas forcément très fun au premier abord, mais très utiles sur notre site.
Donc c'est un réseau qui agit un petit peu comme un outil.
Exactement, c'est ça. On a vraiment la mission ressources en premier. On va dire que les rencontres qu'on organise, les différents temps d'information et tout ça sont vraiment sur le secteur professionnel. Mais aujourd'hui, du coup, je viens parler plutôt d'un événement grand public, ouais. Qui est un petit peu notre seul événement grand public, mais qui est très convivial. Et j'ai oublié de dire qu'il n'y a pas seulement des individuels qui adhèrent, il y a aussi des structures en tant que telles. Voilà. Donc la navette de l'art, notamment, s'adresse aux structures adhérentes, quoi.
Et alors, pourquoi avoir choisi de s'axer sur les arts visuels ?
Alors, en fait, l'association existe depuis 2018 et elle est issue d'une dynamique vraiment territoriale, enfin régionale. En gros, le ministère de la Culture a commandé une sorte de, pas vraiment d'audit, mais d'état des lieux du secteur des arts visuels dans beaucoup de régions à différents moments, mais... Et ça a été le cas pour le Centre-Val de Loire, donc juste avant la création du réseau. Donc pour dire les choses un peu simplement, tous les professionnels à tous les niveaux, donc un peu comme j'ai cité tout à l'heure, mais aussi des élus, etc., se sont rassemblés et ont discuté, en fait, se sont mis autour d'une table et ont discuté, ont participé à des ateliers, etc., et ont essayé de mettre à jour... ce qui faisait défaut et ce qui fonctionnait dans le secteur des arts visuels, quelles étaient les problématiques professionnelles des artistes, quelles étaient les problématiques à travailler dans des structures, et des structures ça veut dire de la plus petite association au collectif d'artistes à la plus grande structure, et que peut-on faire, je le dis un peu vite évidemment, mais que peut-on faire pour améliorer tout ça. Et donc il y avait quelques préconisations dont certaines sont endossées par le réseau Devenir Art. Donc c'est pour ça qu'on accompagne en visibilité, qu'on a créé les outils annuaires, agenda. On a aussi un dispositif chronique, un dispositif éditorial, je ne vais peut-être pas développer là, mais et les temps d'information sur le statut d'artiste-auteur et différentes questions professionnelles des artistes et des structures. Voilà, donc le réseau existe pour pallier à certains manques, à certaines choses, certains besoins qui ont été pointés à l'occasion de ces saut d'avis, voilà, de ces grandes rencontres. Voilà.
Donc aujourd'hui, quel est ton rôle au sein de l'association ?
Alors, dans l'association, on est trois. Moi, je suis chargée de coopération et de visibilité. Bon, c'est un petit peu abstrait. Mais concrètement, moi, je m'occupe justement de l'agenda papier, donc la collecte, le lien avec les adhérents pour collecter leurs actualités et les restituer dans l'agenda papier. La tenue de l'agenda en ligne aussi, qui est un outil qui est géré, enfin qui est abondé directement par nos membres. Mais il s'agit de les former et puis aussi de les accompagner dans l'utilisation du back-office. Je m'occupe du dispositif chronique, du coup j'en dis deux mots, mais c'est un dispositif avec lequel on invite des critiques d'art qui viennent d'ailleurs à rencontrer des artistes sur le territoire pour vraiment découvrir leur travail sur une demi-journée dans leur atelier et ensuite écrire sur leur travail. Donc pour les artistes plasticiens, un texte dans un portfolio, dans un CV, c'est hyper important, donc c'est un peu avisé professionnel, et aussi pour créer des rencontres, faire venir d'autres professionnels sur le territoire, essayer de créer des compagnonnages aussi professionnels, si ça peut donner d'autres expositions ou d'autres projets, c'est un peu le but. Donc je m'occupe des chroniques et des navettes de l'art. Collégialement, on organise les rencontres régionales des arts visuels, qui vont d'ailleurs avoir lieu en septembre à Tours. Et puis des points infos, sur des thématiques administratives ou d'ordre pratique ou plutôt de mobilisation. Et ça, c'est aussi 4 fois par an et on participe un peu toutes. Il y en a un bientôt à Blois en juin. La date m'échappe, mais je pourrais la redire tout à l'heure, sur la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le secteur des arts visuels, donc à la Fondation du Doute, par exemple. C'est ce type de choses qu'on peut organiser. Donc j'y participe aussi. Voilà.
Et donc, on l'a dit, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler donc, d'un événement qui est ouvert au public. Quel est le concept de la navette de l'art ?
Alors, la navette de l'art, c'est donc un peu dans notre mission de donner de la visibilité aux membres. Aux membres plutôt côté structure. Et c'est l'idée toute simple d'un parcours sur une journée, d'un itinéraire le point de départ change à chaque fois puisqu'on s'implante dans différents départements à chaque navette. Et sur une journée, en fait, on va visiter 3 à 4 lieux, en général sur 2 départements. On essaye de faire en sorte que ces lieux soient assez différents dans leur fonctionnement, dans leur identité, dans leur orientation artistique pour que justement le public puisse avoir une vue de la diversité en fait de ce qui existe, parce que il y a des lieux dans la région qui sont plus identifiés que d'autres, qui ont une capacité de communication importante déjà, mais il y a plein de lieux qui sont peut-être moins connus au premier abord des gens qui s'intéressent aux arts visuels ou des gens qui s'y intéressent pas encore. On essaye de montrer sur une journée d'avoir 3 lieux assez différents dans leur démarche et leur structuration. Et la navette de l'art, peut-être que j'anticipe la question, mais s'adresse vraiment au grand public. Donc l'idée, c'est aussi de faire découvrir et de donner envie aux gens de revenir à un public vraiment qui peut être très novice, amateur, curieux. C'est même aussi bien, puisqu'on part du principe aussi que ces visites-là sont privilégiées. Elles sont vraiment accompagnées. On essaye de mettre en place, ça se met naturellement en place, mais une convivialité vraiment sur ces journées. Et donc, c'est un peu plus simple peut-être pour des gens moins habitués à aller dans les centres d'art ou les lieux dédiés aux arts visuels, de participer à ces visites que d'aller à un vernissage et de pousser la porte sans trop savoir.
Donc, on l'a dit, grand public, mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge à peu près des personnes qui se réunissent pour les navettes de l'art ?
Pour le moment, non. On a uniquement proposé des programmations tout public. Donc, c'est vraiment arrivé qu'on ait des navettes avec une très grande palette d'âge, justement, des gens avec leurs enfants, c'est sûr que peut-être il peut y avoir des petits moments de détails, des visites. Les visites ne sont pas adaptées au jeune public. Donc, faut juste le savoir. Elles sont tout à fait compatibles, mais elles sont pas adaptées pour le moment. C'est tout à fait possible qu'un jour on fasse une navette spéciale jeune public, d'ailleurs.
Mais c'est ça. Mais elles sont pas créées pour le jeune public, voilà, initialement.
Voilà, c'est ça.
Et comment est-ce que, du coup, on ajuste son discours à un public qui est totalement novice, par exemple?
Je pense que une des choses importantes, c'est de... Et ça, aussi, nous, on le travaille en amont avec les gens des lieux qui accueillent le groupe, c'est de laisser beaucoup de place à l'interaction, en fait. Parce que, pour que, justement, en fonction du groupe, comment dire... si le groupe comporte des gens qui sont plus ou moins habitués, connaisseurs, etc., le ton ne sera pas le même, et c'est bien si c'est un petit peu finalement le groupe qui donne le ton. Donc pour ça, il faut essayer de mettre en place un climat où les gens se sentent vraiment autorisés à parler, à poser plein de questions. Donc c'est très chouette aussi quand parfois l'artiste est présent. Et ça, quand on garantit cet espace et que les gens sont autorisés à poser toutes les questions qui leur passent par la tête, entre guillemets, très vite, ça va donner le ton à la visite. Et voilà. Je pense que les gens qui nous accueillent, c'est des professionnels de la médiation, donc ils sont aguerris, ils sont capables de rebondir et de s'adapter. Ça, c'est chouette.
Et donc, t'en as un petit peu parlé, mais comment est-ce qu'on construit un itinéraire artistique? Est-ce qu'il y a un fil conducteur, une idée directrice à l'origine de tout ça?
Nous, c'est vrai qu'on n'est pas, sur, on n'a pas vraiment de ligne. C'est un très très grand mot, mais de ligne éditoriale sur une journée. On va pas être sur des thématiques qu'on va associer, puisque nous, l'idée, c'est vraiment
d'avoir une variété d'endroits.
C'est ça, et puis de visibiliser les membres. Donc déjà, les navettes de l'art, elles vont être contraintes à la liste de nos membres, qui augmente chaque année et qui est déjà super. mais déjà, c'est un peu la première règle. Et puis après, ça va être ça, la diversité des lieux, le fait que les lieux aient envie de se prêter au jeu. Enfin, ça, normalement, avec le fait d'adhérer au réseau, ça coule un peu de source, parce que ça fait partie des choses qu'on met en place en coopération, quoi, en coopérant. Donc finalement, c'est surtout là-dessus, quoi. La capacité des personnes à nous accueillir le jour J, à être disponibles et à s'adapter à ce format-là. Et voilà. En général, ça, c'est y a pas de problème avec ça. En général, les gens sont très très contents et nous réservent un accueil hyper professionnel et en même temps convivial, quoi.
C'est la troisième navette de l'art cette année. Ça fait combien de temps est-ce que ça existe?
C'est ça, c'est la troisième cette année. Il y en a quatre par an depuis 2023. Avant, ça a commencé entre 2018-2019, quelque chose comme ça. Avant, c'était moins régulier. Enfin, il y en avait moins, en fait, par an. Donc, je pense qu'on doit être à peu près... on a une petite vingtaine en tout. Voilà, c'est ça. Et là, on s'est calé sur un rythme un peu régulier depuis 2023.
Et on va peut-être terminer là-dessus avant de faire une petite pause en musique. À quel tarif est-ce qu'on peut y participer?
Alors, l'idée de la navette de l'art, c'est d'être particulièrement accessible, puisque ça va avec ce que je disais tout à l'heure, de vouloir aussi ouvrir les portes de la navette au plus grand nombre, quoi. Le tarif est de 5 euros, mais la gratuité est proposée aux minima sociaux et aux étudiants, étudiantes. Donc voilà. C'est une inscription en ligne.
Et donc, merci à vous pour cette présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur. On va faire une pause musicale sur Radio Campus Tour. Que va-t-on écouter, Marie?
On va écouter le titre Machiavelli de l'artiste Osé.
Your kiss is so right. hace más location con mi equipile. Come and see, jealousy, jealousy. Ah, no good on me if he goes out tonight. I'm not only Montana, commando. Even if you want shooter, I won't go. Ah, we are, 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 we are,
d'écouter Machiavelli et l'artiste Osé sur Radio Campus Tour. Il est temps à présent de nous intéresser de plus près à cet événement, la navette de l'art, la troisième édition de cette année. Alors je rappelle que Ninon Barra est présente avec nous, c'est le 7 juin pardon, 2025, ouais, de 9h30 à 18h. Et donc on parlait en off des partenaires qui vous suivent avec cette navette. Qui sont-ils?
Oui, c'est ça. Alors, les navettes sont inscrites à l'agenda Nouvelle Renaissance. On est aussi inscrites au passeport culturel étudiant, qui nous permet aussi de faire connaître les lieux et faire connaître le réseau à certaines étudiantes. On en a à peu près, on n'en a pas beaucoup, mais sur chaque parcours. Donc, c'est chouette. Et bah, ensuite, après, le réseau est soutenu par la DRAC et la région et aussi certaines collectivités communes. Mais en termes de partenariat vraiment sur la navette, on travaille quand on passe en Indre-et-Loire, quand la navette a un passage en Indre-et-Loire, ce qui n'est pas tout le temps le cas. On travaille avec Culture du Cœur 37 pour, voilà, on s'inscrit en fait à la billetterie Culture du Cœur pour réserver quelques places. Donc à chaque fois, c'est assez chouette. Donc là, ce sera le cas sur cette prochaine navette puisqu'elle part de Tours. Voilà. Et aussi Culture du Cœur 41, ce que je disais. Oui, on commence tout juste. Mais sur la navette du 26 avril, on a fait une navette piétonne là, dans le centre-ville d'Orléans. On a eu quelques personnes qui sont venues par ce biais-là. Donc c'est très, très chouette. Enfin, en général, c'est assez riche. Ouais. Voilà.
Et donc on va s'attarder un petit peu plus sur ce programme donc du samedi 7 juin. Les arrêts prévus par cette navette, le premier par exemple, c'est le musée du Véron à Savigny-en-Véron. Pourquoi ce lieu ?
Alors, je me permets juste d'abord de faire un tout petit erratum sur les horaires parce qu'on a on a revu un tout petit peu, on a avancé d'un quart d'heure. Bref, le rendez-vous en gare routière, enfin en gare sur l'esplanade de la gare de Tours sera à 9h15 pour un départ à 9h30. Et la fin de journée devrait plus se faire vers 17h30, 17h40 au même endroit. C'est un peu plus raisonnable voilà, pour les gens. On s'était un petit peu trompé au début sur les temps de trajet, donc désolé pour ça. Et le musée du Véron, en fait, ça fait partie des membres du réseau qui sont là depuis, je pense, enfin moi j'étais pas encore là, mais je pense depuis la première heure, qui suivent un peu les projets du réseau et qui s'y investissent. Et ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé les voir en navette, au moins plus de 2 ans et demi, parce que On n'a pas fait d'arrêt au musée du Véron depuis que moi je suis là. Donc voilà, ça fait longtemps que c'est prévu et là c'était l'occasion. Je ne sais pas si je parle un peu plus de ce qu'on va y voir ou de ce que c'est comme type de...
Oui, c'est complètement. Bah, on peut le dire rapidement et puis je te laisse en parler puisque tu le feras bien mieux que nous. Mais donc, il y aura l'exposition Regard de François-Xavier Chagnoux. Ouais. Donc, cette exposition, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Alors, en fait, oui, le contexte, donc, c'est que le musée du Véron, c'est un musée d'anthropologie sociale et culturelle. Donc... qui parle des différentes cultures et civilisations et de la façon d'habiter les lieux, du lien à l'environnement, etc. Donc c'est un musée d'art et d'objets en fait. Et chaque année, le musée invite dans une collection permanente un artiste contemporain à proposer une exposition en écho avec la collection. Voilà. Donc François-Xavier Chagnoux, c'est un artiste d'Indre-et-Loire. La navette de l'art s'intéresse quand même principalement à l'art contemporain. C'est donc parce que il y a cette proposition de mise en écho de l'art contemporain et de l'anthropologie par le musée qu'on a choisi d'aller à cet endroit. Et donc voilà le travail de François-Xavier Chagnoux porte beaucoup sur l'anthropologie artistique et culturelle, les mécanismes de mondialisation, la migration, etc. Donc forcément, ces œuvres vont trouver un écho particulier avec la collection. Voilà. Donc je pense que ça sera très chouette et beaucoup de choses à dire le jour J. Je ne vais pas trop en dire plus là, mais...
Et donc on continue, arrêt numéro 2, c'est la Galerie Neuve qui se situe en plein cœur de Tours. C'est l'association Espace Passerelle qui gère le lieu. C'est quoi son histoire? Qui sont-ils?
Alors, je connais pas toute l'histoire, mais déjà pour illustrer le fait qu'on va, avec la navette, on va visiter des lieux assez différents les uns des autres et qu'on essaye de montrer que, en fait, les arts visuels, ça peut être une exposition d'art contemporain dans un white cube ou dans une galerie, mais aussi justement des œuvres d'art contemporain en lien avec des œuvres d'anthropologie ou des objets, mais aussi des fois des lieux qui proposent une vision des arts visuels plus sociale presque. Là, c'est le cas de l'association Espace Passerelle qui gère la Galerie Neuve. La Galerie Neuve qui est donc Place Neuve dans le quartier des Sanitas. C'est une association qui lutte contre les discriminations sociales et professionnelles, contre l'exclusion, la dévalorisation des personnes, etc. Et en fait, la Galerie Neuve est un des outils de cette association. Donc Sophie Pécresse qui est médiatrice dans ce lieu, qui est très engagée pour le maintien de cette galerie en tant que qu'outil de cette association, qui par le biais des arts visuels va œuvrer à des projets collaboratifs et inclusifs. Donc c'est beaucoup des expositions justement qui sont évolutives. Donc il y a des temps d'accrochage assez longs, le temps d'accrochage en tant que tel est un événement sur plusieurs jours, donc des thématiques avec là pour le coup des artistes professionnels mais aussi des artistes amateurs. Donc une autre façon d'appréhender les arts visuels, et donc là on aura une présentation du lieu un peu plus largement aussi je pense, et une visite de l'exposition.
Et est-ce que ça peut faire partie des objectifs des navettes de mettre en avant aussi des artistes plus émergents?
Oui, tout à fait. Alors en principe, c'est vrai qu'on a quand même les membres en tout cas du réseau sont dans une démarche de professionnalisation. Donc c'est un peu ça le critère. Ils sont plutôt des artistes professionnels et non des gens qui ont envie de garder une pratique amateur. En revanche, sur l'émergence, l'émergence ça induit un chemin de professionnalisation. Donc oui, tout à fait. La navette, quand les lieux programment des artistes émergents, c'est très bien. Et plus largement, le réseau aussi essaye d'accompagner les artistes à cet endroit-là, à ce moment-là. Notamment, on intervient dans les écoles d'art aussi pour justement donner une première idée des ressources à disposition, accompagner un peu les jeunes artistes dès le diplôme à connaître leurs intérêts, leurs droits et comment ça marche, tout ça, parce que c'est quand même très complexe.
Ouais, un petit peu structurer la vie professionnelle
c'est
au
ça.
Départ.
Mmh. Ouais, et essayer aussi de se faire connaître, nous, comme un outil ressource qu'on peut appeler, contacter aux besoins. Donc, quand à l'occasion de la navette, on peut voir le travail d'artistes émergents, on est très contents aussi.
Donc, quelles techniques ils emploient, ces artistes ?
Alors là, je vais peut-être pas trop spoiler parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais c'est vrai que les visites, les médiations sont quand même vraiment entre les mains des professionnels chez qui on va. Mais je sais que pour François-Xavier Chagnoux, c'est assez transversal. Enfin, il y a beaucoup de médiums différents. Je préfère aujourd'hui pas trop plus en parler parce que si j'en parle mal.
Bah, il va falloir y aller. Voilà.
Mais en tout cas, d'une manière générale, les artistes qui sont membres du réseau et qu'on peut voir dans la navette et dans les lieux qui sont membres, c'est effectivement. Les pratiques sont très, très,
très
diversifiées. Quoi. Et il y a beaucoup de. On a un annuaire des professionnels où on n'a pas de filtre, c'est un peu une question qui revient régulièrement, on n'a pas de filtre par pratique ou par médium, ce serait hyper pratique pour les gens, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui font plein de choses différentes. Quoi. Ils font de l'installation, de la sculpture, de la photographie, donc c'est difficile de les classer de cette manière-là, parce que souvent, leur pratique évolue en même temps que les médiums. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas, quoi. Donc voilà, donc c'est très varié, on voit plein de choses en fait. Quoi.
Et alors si on poursuit sur le troisième arrêt de cette journée du 7 juin, on atterrit à Zone I. C'est quoi ce lieu ?
C'est ça, alors Zone I, donc c'est on passe côté Loir-et-Cher. C'est à Touré-la-Rochette, donc c'est pas très loin de Vendôme. Oui, j'ai pas dit pour le premier lieu, donc Musée du Véron, c'est à Savigny-en-Véron, donc on est encore en Indre-et-Loire. Ensuite, on repasse à Tours, ensuite on va dans le Loir-et-Cher, et ensuite on redépose les gens à Tours le soir. On les laisse pas dans le Loir-et-Cher, parce qu'on les a pris à Tours. Zone I, c'est un espace donc culturel qui est dédié à l'image et à l'environnement, à Touré-la-Rochette. Mais c'est surtout un moulin sur le Loir magnifique. En fait, c'est un couple, donc Matt Jacob et Monica Santos, d'artistes, photographes et scénographes, qui se sont installés dans la région et qui ont repris ce lieu. Et donc qui ont mené déjà un gros travail de réhabilitation sur le lieu, parce que c'était pas du tout, il était pas du tout exploitable d'après ce que je sais, et qui ont fait un endroit où on peut, qui accueille des résidences, des expositions, donc beaucoup vraiment tourné autour de la photo. Mais ils organisent un événement tous les étés qui s'appelle, c'est un festival, le festival Images et Environnement, si je dis pas de bêtises. Mais tout le reste de l'année, il y a des rendez-vous autour de la photographie. Et c'est un lieu très accueillant aussi pour les habitants du Vendômois, qui arrivent bien à mélanger un peu les spécialistes de la photographie et les gens aussi, les curieux. Et donc c'est vraiment un très chouette lieu. Et donc pour l'exposition, c'est pareil. Pas trop en dire plus, mais on va leur faire confiance. C'est une exposition qui s'appelle Envol, qui est collective, commissariée par ces deux personnes-là, qui parlent. Enfin, je sais qu'il y a une thématique commune autour des oiseaux et des animaux, mais ça sera à découvrir le jour J.
Dans la description du lieu, c'est décrit comme une zone qui prête à la réflexion écologique.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un message que la navette souhaite porter ?
Oui, un message, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que le format est aussi l'occasion vraiment de proposer à des gens. En fait, cette question de mobilité, avec les questions de décarbonation, questions écologiques, environnementales et tout ça, il y a beaucoup les questions de mobilité. On se doute que pour des raisons écologique, mais aussi financière, économique. C'est pas évident d'aller à 1h30 découvrir un lieu dont on sait pas du tout si ça va nous parler, si c'est fait pour, entre guillemets, si c'est fait pour nous et tout ça. Donc la navette, elle est un peu là pour proposer une solution alternative à ça. Et c'est aussi dans une vue dans une idée de ouais de écologique quoi. Ouais, tout à fait. On fait trois maintenant, on fait depuis 2024, il y a trois navettes par an qui sont en bus, et en 2024, il y en a une en vélo aussi, avec en partenariat avec Collectif Cycliste ici à Tours, qui fait un super travail de prévention, et aussi une vélo-école, enfin plein de trucs vraiment super. D'ailleurs, eux aussi font des parcours de vélo à Tours et aux alentours qui sont hyper intéressants, thématiques aussi. Et là, le 26 avril, celle qu'on a fait à Orléans était piétonne. Donc voilà, par tous les moyens, on va essayer d'accompagner les gens en se disant, en fait, même sur une journée en vélo ou à pied, il y a déjà moyen de rencontrer trois ou quatre pratiques différentes, lieux différents, et juste à côté de chez nous, voilà, d'avoir vraiment de faire de belles découvertes, quoi, et d'apprendre des choses. Donc,
Et alors avec Devenir Art, qu'est-ce que vous espérez que les visiteurs retiennent ou ressentent après avoir participé à la navette de l'art ?
Bah en fait, on a envie qu'ils aient... Enfin, on espère qu'ils aient envie de revenir, mais pas seulement dans la navette, parce que c'est vrai que la navette, c'est... Comme je disais, c'est un outil de découverte. Dans l'idéal, c'est que les gens aient envie de revenir dans les lieux par eux-mêmes, ou à d'autres, pour la prochaine exposition, ou sur un temps justement d'atelier, ou d'atelier jeune public. Ou,
de faire marcher un petit peu le bouche à oreille aussi. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est ouais. Ça. C'est de. Ouais, qui se sentent légitimes à se dire bon, bah, très bien, maintenant, on reviendra la prochaine fois, on pourra en parler autour de nous. Voilà. Et puis qu'ils aient passé un bon moment, vraiment. Vraiment, c'est cette journée, vraiment, elle a ce truc de convivialité, d'un moment chaleureux, quoi. Où on, voilà. qui n'est pas hyper codifié. Il y a un petit côté colonie de vacances avec le bus. Et...
Oui, c'est ça, mais c'est sympa. Ça crée une ambiance tout de suite.
Voilà. D'ailleurs, c'est important, mais il faut absolument amener son pique-nique. Je le dis parce que c'est un truc, souvent, il y en a un ou deux qui oublient. Et selon les parcours, parfois, c'est pas toujours facile de faire un arrêt supplémentaire pour aller à la boulangerie. Bon, on y arrive, mais vraiment, venez avec, c'est mieux. Et voilà, donc le temps du repas.
Ne soyez pas les boulets du groupe sans votre pique-nique.
C'est toujours rigolo, ça fait des petites aventures. Mais donc le temps du repas, c'est un moment où on partage un pique-nique. Enfin, chacun apporte son pique-nique, mais on partage le moment du repas. Souvent dans un endroit, on essaye d'être en plein air quand il fait beau, avec une solution de repli. Mais c'est vraiment un temps d'échange aussi, en plus des temps de bus où il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui parlent ensemble. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Voilà.
Et donc on en sait déjà plus, faisons une nouvelle pause musicale sur Radio Campus, on écoute, j'ai pas envie de te dire de bêtises, le titre Candela et les artistes Busty Twist et Ghetto Kumbé.
No juegues con mi vida, tú ves.
Et c'était Candela de Buzzy Twist et Ghetto Kumbé sur Radio Campus Tour. Vous écoutez l'émission Sortez et avec nous Ninon Barra de l'association Devenir Art afin de nous présenter la navette de l'art de ce samedi 7 juin. Donc on a déjà fait le tour à peu près de cette navette, mais est-ce qu'il y a une évolution dans la fréquentation ou l'intérêt du public au fil des éditions ?
Oui, alors sur la fréquentation, c'est pas forcément le nombre qui est le plus parlant, parce que étant donné qu'on va visiter des lieux de différentes tailles et tout ça, enfin voilà, il y a des, parfois c'est des galeries associatives qui sont plus petites en fait, tout simplement, que certains grands centres d'art, donc forcément, donc on limite un peu la jauge à une 30, peut-être une quarantaine de personnes en fonction des programmations. Donc de fait, voilà, on ne peut pas se dire qu'il y a une augmentation exponentielle des visiteurs. Par contre, ce qu'on regarde, c'est si on voit des nouvelles têtes, voilà, si on voit des gens qui découvrent le réseau, si les gens qui participent à la navette découvrent les lieux dans lesquels ils vont. C'est ça surtout qui nous intéresse. Et ça, on arrive à peu près... Alors c'est vrai qu'on a quand même quelques personnes qui sont un petit peu déshabitués parce qu'ils ont découvert le dispositif tôt et qu'ils adorent et que voilà, c'est des amateurs, mais on va dire plus.
Et c'est chouette de réussir à fidéliser aussi un public autour de cet événement.
Oui, bah oui, ça participe aussi de... Enfin, c'est presque aussi les quelques habitués qui accueillent le groupe avec nous presque. Enfin, il y a un truc où ça favorise aussi un effet de convivialité et tout ça, le truc, voilà. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi quand même de... c'est pas ça qu'on veut trop développer, parce que comme on n'a pas une énorme jauge, on veut que, justement, en passant par le passeport culturel étudiant, des étudiants puissent s'inscrire de temps en temps, découvrir du coup certains lieux, puissent voilà, revenir vers nous si c'est des gens qui œuvrent dans les arts visuels pour d'autres raisons, s'emparer du format papier ou de l'agenda en ligne aussi, pour découvrir tout l'éventail de ce qui se passe sur la région. Je prends l'exemple des étudiants, mais c'est un peu la même façon avec les gens qui vont venir nous voir par le biais de Culture du Cœur. C'est l'idée de faire que ce soit une porte d'entrée en fait sur les arts visuels en général et les lieux qu'il y a en région. Donc voilà, on adore les gens qui sont un peu nos habituels, en l'occurrence, c'est des gens en plus adorables, mais voilà.
Restez avec nous quand même.
Oui, tout à fait. Mais voilà, on aime bien voilà, quand c'est des gens nouveaux, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas les lieux, ça c'est vraiment, c'est un peu l'objectif, quoi.
Selon vous, quel est le principal défi qu'on connaît aujourd'hui pour la médiation des arts visuels ?
Alors c'est vrai que moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la médiation, mais je sais qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup la question de l'accessibilité au sens large qui est importante pour les professionnels de la médiation, pour les professionnels des arts visuels du coup, par rapport aux personnes porteuses de handicap, c'est très très large, ça peut être visuel, de toutes sortes, ou même plus largement des personnes qui vont avoir un frein ou des complications quoi, à appréhender certaines propositions artistiques, comment essayer de s'adapter un maximum. Ça je sais que y a des rencontres sur le thème. C'est un thème qui est pas mal abordé dans des instances professionnelles, peut-être plus largement aussi d'autres réseaux dans d'autres régions. Nous, on a pensé y consacrer nos rencontres régionales cette année pendant un moment. C'est très large, mais la question de l'accessibilité et de pouvoir s'adapter au plus grand nombre sans avoir trop un public peut-être typé, critère, qui va être toujours celui qui a accès à toute la proposition, on va dire. Donc là, ça, voilà.
Et donc, Devenir Art, ça agit comme un réseau à l'échelle de la région. À quel point est-ce que vous pouvez être impacté par les coupes budgétaires sur la culture ? Est-ce que ça a vraiment des répercussions sur votre activité en tant qu'association ? Ou vous êtes relativement épargné ?
Donc pour parler un peu largement sans non plus trop en parler, parce que c'est vrai que pour le coup l'accord, alors j'ai pas cité mes collègues, je vais quand même citer mes collègues. Mélissa Martin est coordinatrice générale du réseau Devenir Art depuis octobre. Elle a succédé donc à Carmen Blin. Et Léane Gonzalez est chargée de communication et de documentation. Donc elle travaille beaucoup notamment sur la communication, déjà c'est très large, et sur l'espace justement de veille et de ressources à disposition sur le site internet dont je parlais tout à l'heure. Donc les guides pratiques, les modèles de contrat, les appels à candidature et tout ça pour les artistes. Et entre autres. C'est juste pour souligner que c'est un gros travail.
C'est important de le souligner.
C'est ça. Et donc, la question, pardon.
Oui, à quel point vous pouvez être impacté par les coupes budgétaires, oui, comme vous travaillez à l'échelle régionale.
C'est ça. Donc, effectivement, le conseil d'administration et puis Mélissa, qui est à la coordination, je pense qu'on parlerait de manière beaucoup plus détaillée. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même en région. A priori, des coupes, les baisses notamment par exemple de la région se sont faites de manière assez échelonnée, en essayant a priori de toucher un minimum les budgets de fonctionnement.
Alors après, là, est-ce que vous travaillez avec la DRAC ou c'est plutôt vos partenaires, les personnes du réseau?
La DRAC sont vraiment tutelle, subventionneurs, quoi.
Ouais.
La DRAC et la région, c'est nos deux principaux financeurs. Ensuite on a la ville de Tours, Bourges, Orléans, j'espère que j'oublie personne, mais communauté d'agglomération Bourges Plus aussi. Donc en gros on a des baisses pour nous vraiment sur le fonctionnement du réseau. Voilà, on a trouvé comment les absorber, et elles nous permettent quand même de continuer notre activité pour ce qui est des grandes des dispositifs majeurs. Elles n'ont pas un impact trop lourd. Après nous, surtout l'impact, en fait, comme on a un réseau et qu'on s'intéresse aux professionnels des arts visuels et qu'on existe aussi parce qu'ils sont là pour les accompagner, beaucoup sont des indépendants et des artistes au statut artiste-auteur, donc indépendants aussi d'une certaine manière, c'est surtout sur cette observation et sur la... cette observation-là et les changements qu'il peut y avoir dans le paysage pour les professionnels, qui peut nous impacter indirectement, parce que y a des dispositifs qui peuvent, des dispositifs justement de la région, de la DRAC ou autre, qui comptent beaucoup dans l'économie individuelle des artistes, des appels à projets ou autres. Et entre autres, d'une manière générale, c'est le maintien de ces professionnels-là qui aussi nous est important et va nous donner une raison de continuer, quoi. En gros, pour le dire vite.
Si on continue sur une touche un peu positive, quels sont les projets ou perspectives d'avenir qu'on a pour la navette ?
Pour la navette, on va faire une... En octobre, donc... à l'automne, dans le cadre du Festival Archipel... qui est un festival coordonné par la région. C'est Anne-Laure Chamboissier qui s'occupe du commissariat d'exposition et qui se déploie dans les maisons d'artistes, maisons d'écrivains, et qui est organisée en partenariat avec Beaubourg. Ça, vous pourrez en savoir plus en allant sur le site de la région. Je pense très prochainement, il y aura un programme en ligne. Et certains artistes membres participe à ce festival aussi, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers d'artistes ouverts. Nous, on va faire deux navettes, en fait, en partenariat avec Archipel et la région dans ce cadre-là. Une navette un petit peu comme d'habitude dédiée à des structures et pendant laquelle on va visiter des expositions, sauf que ces expositions seront agrémentées de pièces dans le cadre d'Archipel. Et une autre navette avec laquelle on ira dans les ateliers d'artistes. Voilà. Et ce sera En principe, bon, ce sera vérifié, les informations seront diffusées dans la newsletter et sur le site, mais en principe, le 4 et le 12 octobre, c'est les dates qu'on a ciblées pour l'instant. Voilà.
Et donc, devenir art, c'est aussi pas mal d'autres événements. Là, actuellement, sur quelles autres activités, événements, on peut vous retrouver ?
Oui, alors j'ai parlé du point info à Blois autour de la prévention des violences des VHSS co-organisé avec le collectif HF+, et animé par Agogé Conseil. Simplement, c'est en juin, la date m'échappe là tout de suite. Il faut aller sur le site de Devenir Art dans les rendez-vous pro, vous allez retrouver ce temps. Voilà, c'est un des points info qu'on peut organiser régulièrement tout au long de l'année. Et donc là, ça se passera à la Fondation du Doute en juin. Je crois que c'est le 26, mais je ne suis pas sûre, donc il faut vérifier. Par ailleurs, donc j'ai parlé de ces navettes de l'art à l'automne. On organise aussi donc chaque année les rencontres régionales des arts visuels. Donc là, c'est vraiment un temps vraiment fort pour nous et pour les professionnels de la région, parce que c'est le moment où on peut tous se voir. Là, ce sera une seule journée. Enfin, ce sera une journée. Faut pas le dire comme ça. Ce sera une belle journée, bien remplie.
Une grande et belle journée.
Voilà, c'est ça. Avec une table ronde, des ateliers. La programmation va être diffusée dans les prochaines semaines, je pense. Elle est en cours d'étude. Ça aura lieu à Tours. Et puis, des temps aussi, justement, d'échange, des temps pour se rencontrer, pour se parler, des temps plus conviviaux aussi. Parce que c'est vrai que, bon, l'échelle, la région est grande. Et la visio, c'est pratique, mais tout le monde a très envie de se voir. Donc ça, c'est une belle occasion. Je pense que je ne suis pas forcément exhaustive, mais il ne faut pas hésiter à nous écrire pour recevoir la newsletter. À la fois, il y a une newsletter professionnelle une fois par mois, une autre publique. On a aussi des chroniques, donc les textes des chroniques dans le dispositif dont je parlais tout à l'heure, qui vont sortir bientôt. Et elles sortent dans la revue Laura, qui est une revue d'art contemporain gratuite qui est fabriquée à Tours et diffusée en région, à 1000 exemplaires. Et donc là, il y aura une inauguration à la toute fin de l'été, qui n'est pas encore datée, mais sur peut-être dernière semaine d'août ou première semaine de septembre. Voilà, l'occasion de croiser des artistes du réseau et des professionnels et des non-professionnels et de discuter d'art visuel, entre autres.
Eh bien, merci à vous pour votre participation. Où est-ce qu'on peut retrouver la programmation ?
Alors, il faut aller sur www.devenir.art. Il faut se méfier parce que c'est vraiment devenir.art, il n'y a pas de .com ou .fr, le site internet. Dans les actualités épinglées, on retrouve tout de suite la navette, et puis ensuite dans l'agenda l'actualité de tous les membres, donc toutes les expositions, rencontres, visites guidées, conférences, ateliers jeunes publics et tout ça qu'on peut avoir partout dans la région, dans tous les lieux qui adhèrent, et dans les rendez-vous pro. Donc là, c'est plus dans l'espace ressources. Là, on va retrouver des événements du type point info, comme je citais à l'instant, qui s'adressent plus aux professionnels, mais on vérifie pas non plus qui s'adressent aux gens, que ça intéresse et que ça peut aider à se lancer ou à se professionnaliser.
Eh bien, merci beaucoup, Ninon, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous présenter donc Devenir Art, mais surtout cet événement donc de la navette de l'art à venir le samedi 7 juin.
Et donc maintenant, place à l'agenda culturel.
Non, c'est bon, j'allais juste dire merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Maintenant, place à l'agenda culturel. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, Marie ?
Ouais, maintenant que le rendez-vous est pris donc pour cette navette de l'art, pour ça, donc les projections de cette semaine, on parlait des VSS. Et bien, demain, mercredi 28 mai, la commune de La Riche propose la formation stand-up à 19h à la Pléiade, ouverte au grand public, pour agir en faveur de l'égalité femmes-hommes. Cette formation, elle part d'un constat simple. 80% des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement de rue, mais seuls 25% affirment avoir su réagir. Et donc Stand Up, c'est un programme de sensibilisation qui a été lancé par L'Oréal Paris en partenariat avec l'ONG Right to Be et la Fondation des Femmes. L'idée étant de fournir les clés donc pour réagir en sécurité et ne pas se laisser submerger avec la technique dite des 5D, donc distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Cette soirée de formation, elle est gratuite et sur inscription, donc à partir de la page internet de l'agenda de la Riche, en cliquant sur la formation stand-up.
Le vendredi 30 mai, un événement dans le cadre du temps des mémoires 2025, ce temps qui rassemble les commémorations nationales et locales de l'esclavage, ses victimes et des luttes pour son abolition. Il s'agit d'une présentation du livre Biambia, édité en 2015 et réédité en 2025, si je ne me trompe pas, une odyssée mémorielle, 10 ans de réconciliation avec l'histoire par Alain Canfac, aux éditions Valeurs d'Afrique. Pourquoi s'y intéresser ? Le site de Biambia au Cameroun demeure l'un des plus importants lieux de départ d'esclaves vers les Amériques. À travers ce récit personnel et collectif, Alain Canfac livre paroles engagées, lucides et résolument tourné vers l'avenir. C'est un acte de mémoire active, une passerelle entre continent, génération et héritage, dans l'esprit de la loi Taubira et des commémorations nationales portées par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est ouvert à tous de 16h à 21h au centre de vie de Sénétas. Le public est convié autour d'une exposition, d'un temps de dédicace avec l'auteur, une table ronde et un petit cocktail de l'amitié.
Et donc toujours ce vendredi 30 mai, à partir de 21h chez Dupont, donc l'une des guinguettes en bas du pont Wilson, ambiance house techno avec le Flower Power Crew, pardon. Donc tout l'été, les guinguettes du centre-ville proposent beaucoup d'animations, allez jeter un coup d'œil à leur programmation. Et donc la preuve, puisqu'on arrive avec un autre événement, je te laisse l'annoncer Samuel.
Exactement, ce week-end il va falloir choisir 3 événements super chouettes. Ce samedi 31 et le dimanche 1er, c'est jour de match, mais il y a le festival sommaire. Avant d'aller chercher vos meilleurs maillots et de crier Barcola sur tous les toits, le festival sommaire vous invite pour 2 jours remplis de musique expérimentale et de productions visuelles au Foudre à la Guinguette de Tours du samedi 31 au dimanche 1er juin. À partir de 14h, une émission a été dédiée au festival sommaire sur radiocampustour.com, rubrique sortez. Sa soirée d'ouverture se déroule au Super 8-9. Pourquoi j'ai fait exactement la même erreur que la dernière fois, c'est magnifique. Au 55 rue du Commerce, 37 000 tours. Une soirée sur le thème de la dub, do tempo, jungus et du rock weird music inspiré des sonorités anglo-saxonnes avec des DJ sets de Gomlo, Local et B2B Low Pitcher à partir de 18h.
Et si vous êtes en manque de cinéma, dans cette nuit du samedi 31 au dimanche 1er juin, les cinémas studios vous accueillent pour la 39e nuit des studios de 18h à l'aube. Donc 5 séances de 15 films de toute époque pour prendre un bain cinématographique avant le début de l'été. Parmi la sélection de films, il y a En Liberté, Le fameux destin d'Emily Poulain, The Assassin ou encore Premier Contact. Un village d'assaut sera aussi à retrouver pour des animations et des pauses gourmandes. Et je termine avec le dernier événement qu'on a sélectionné ce week-end. Samedi 31, c'est aussi le concert des Frondes Joyeuses au Bateau Ivre. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont 6 groupes qui s'associent pour lever des fonds et faire barrage au projet de déboisement à Reny. C'est une parcelle donc protégée pour son intérêt environnemental reconnu. Et le changement du plan local d'urbanisme conduit donc par la communauté de communes Touraine-Est-Vallée est attaqué. Le tribunal administratif a été saisi, mais cela est coûteux, d'où la raison d'être de cette soirée. Seront de la partie 4 groupes rock, Kermes, Under the Swell, The Sidewalk Bandits et We Nerves, ainsi que la chorale de la Petite Rouge de Touraine, donc c'est une chorale militante, et le DJ John John Masterbeat en fin de soirée. Le prix est libre, il compte sur votre participation, et c'est à partir de 19h.
Et merci Marie pour cette belle chronique.
Je suis désolée, je voulais juste en profiter pour préciser que le point info dont je parlais tout à l'heure sur la prévention des violences et harcèlement sexiste et sexuel, en plus comme le premier événement dont tu parlais, je voulais rebondir, aura lieu le 17 juin.
Ah voilà, on a la date.
À la Fondation du Tout à 14h et c'est gratuit aussi, voilà, navré.
Ah bah non, bah, faut surtout pas s'excuser, il n'y a jamais assez de sensibilisation. Exactement. Autour de ce sujet.
Et d'ailleurs, vous m'avez rattrapé, j'ai dit une bêtise. Merci Marie pour cet agenda, on passe à un côté chronique. Et oui les gars, je suis allé voir le dernier Mission Impossible, The Final Reckoning. On se fait un petit récap de suite.
Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you are, everything you've done, is
come to this. When the need for certainty is absolute, and the odds are deemed impossible.
Et donc, sorti le 21 mai 2025 au Cinoche, il s'agit du 8e film de la saga Mission Impossible, dirigé par Christopher McQuarrie et Tom Cruise lui-même. Ce film vient clôturer une saga qui nous aura tous bercés, pionniers du genre action. Mission Impossible, c'est littéralement l'incontournable du moment. Pour le casting, bon, je vous mens pas, j'ai la flemme, il y a du monde, il y a Pomme Clémentif, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ezaïe Morales, Anna Wadigam, Greg Tarzan Davis, que j'aime plutôt bien. Bref, de bons acteurs pour un bon film. Et donc pour le synopsis, Ethan Hunt et l'équipe du FMI se lancent dans une course contre la montre pour trouver l'entité, une intelligence artificielle malveillante qui veut détruire l'humanité. Alors que son ennemi juré Gabriel fait pression sur lui pour récupérer le matériel lui permettant de contrôler l'entité et repartir le monde à son image. Bon. Il y a peu de choses à dire sur le film, je pense que ce Mission Impossible fait atteindre la saga et le genre action d'un tout autre niveau si on reste seulement sur le côté action. Les scènes de combat sont incroyables, tout est bien dirigé, on sent qu'il y a une vraie envie de faire mieux, toujours plus et d'atteindre des limites, des stades jamais vus auparavant. Donc pour cela, merci à Tom Cruise et toutes les équipes qui l'accompagnent. Les efforts fournis, l'abnégation, l'image, tout est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est clairement l'apogée d'Ethan Hunt et de la saga Mission Impossible. On passe un excellent moment d'avant, je vous le conseille vivement. Mais, il y a toujours un mais. Le scénario a tout de même ses limites. Tous les films sont connectés alors qu'au final, il n'y en a que deux. Bon, les premières minutes pour moi sont assez rushées. J'ai eu cette impression-là du « vite, il faut qu'on rappelle tous les personnages qui sont présents et les intrigues, puis on rentre dans l'action ». Il y a aussi beaucoup de spectateurs qui disent que la première heure du film est super lente. C'est vrai que le côté bureaucratie et nostalgie des anciens films est assez chiant, mais moi personnellement j'aime bien. Parlons-en aussi de cet ennemi juré. On l'a jamais vu des 7 derniers autres films et comme de par hasard il vient d'arriver. Non, franchement, il est clairement inutile. Il n'y a rien de plus chiant qu'un méchant qui est juste là pour faire le méchant. C'est inutile. Dans Dead Reckoning, il avait quand même un certain meilleur, on va dire. Maintenant, je vais spoiler, même si je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà été spoilé à cause des nombreux articles, avis et posts Insta ou TikTok à ce sujet. Je ne comprends pas la fin. Pour moi, lorsque tout est dirigé pour qu'on pense que c'est enfin fini, pourquoi choisir de rester sur une fin qui présage une suite? Et là, j'en suis sûr, je vais me faire tirer dessus par un bon nombre de fans, mais Ethan Hunt aurait dû mourir à la fin pour marquer un réel tournant. Si je m'aligne avec cette idée de Final Reckoning, à la fin, ça aurait été donner un vrai clap de fin. Je voulais sortir de la salle en me disant « Enfin, il a réussi, mais au prix de quelque chose, d'une vie ou quoi que ce soit. » En ayant pour une dernière fois un sentiment de tristesse, mais aussi de joie en voyant l'œuvre qu'est Mission Impossible. Le scénario n'a été qu'un prétexte pour laisser Tom Cruise faire des pirouettes sur un avion lancé à pleine balle. Et à la fin du film, le monde fait comme s'il ne s'était rien passé et qu'une troisième guerre froide n'allait pas se déclencher. Ça, franchement, je trouve que c'est pas possible, même pour une Mission Impossible 9 ou 10. Mais bref, allez vous faire votre propre avis. C'est au cinéma, c'était No Name sur Radio Campus Tour.
Life flows like water. Your fears will fade. Sky.
Every day a river can take me to my dreams.
Radio Campus 99.5. Radio Campus 99.5. J'ai dit Radio Campus 99.5. Radio Campus Tour.